Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission historique de Mode d'emploi d'agir ensemble contre le chômage. Ce soir, une émission de rentrée qui fait le bilan de l'année 2015 avec son lot d'attentats qui ont ensanglanté Paris. Les affaires, les promesses non tenues, les mensonges, la COP21, l'état d'urgence et les exactions policières. Tout un programme, morbide, sinistre. Vous entendrez aussi les extraits des autres émissions tenues par les équipes de Mode d'emploi, Attaque et Copernic, qui officient sur nos ondes depuis 3 ans, et l'équipe secrète Fabrication, qui fête sa première année d'émission. Ces 3 nouvelles équipes perdurent avec régularité chaque mois sur les ondes et sont excellentes tant sur les thématiques choisies, la qualité de leurs invités, que sur la forme et le contenu. Je n'ai pas de mal, moi, à leur rendre hommage et ne suis pas timide en compliments. Je remercie donc ici et maintenant ces 3 autres émissions de Mode d'emploi qui ont répondu à l'origine à mon invitation pour constituer leurs équipes et qui ont su tenir sur la durée. Je souhaite qu'ils restent encore avec nous bien longtemps. Janvier. Tout a été dit sur les attentats de janvier, que nous condamnons évidemment. Mais ce qui m'a scandalisé, ce sont les événements qui ont suivi. 1. L'esprit 11 janvier avec son slogan « Je suis Charlie », réunissant dans la rue des centaines de milliers de personnes, alors qu'une personne sur 1000 lisait le journal. 2. En première ligne de la manif, les dignitaires de beaucoup de pays étrangers, répondant à l'appel du président Hollande, parmi eux, des personnalités autoritaires et peu démocrates dans leur propre pays, comme le président turc, l'israélien, et quelques personnalités africaines et du Moyen-Orient, en général peu enclins à la démocratie. 3. L'hommage militaire organisé aux Invalides pour nos caricaturistes qui bouffaient du galonné chaque semaine est à mourir de rire, écrivait le Canard enchaîné. 4. Tous promus chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume, alors qu'ils avaient en horreur les médailles, les honneurs, la gloire. C'est donc là montrer un profond mépris pour ceux qu'ils défendaient, même si cela part d'une bonne intention. 5. La cloche de Notre-Dame qui retentit pour saluer leur mémoire alors qu'ils étaient profondément anticléricaux de leur vivant et qu'ils désinguaient toutes les religions dans leur dessein. C'est le monde à l'envers, le vrai hommage aurait été de ne rien faire, simplement une petite allocution à la télé. Février. Une nouvelle loi, cela ne sera que la 8e, pour terroriser le terrorisme, avec un espionnage de masse sur Internet, plus de caméras et de micros. Les barbouzes en rêvaient, mais sont toujours dans l'incapacité de stopper et de surveiller ceux qui sont déjà sur leur fiche. Il n'y aura pas de loi d'exception, ni de Patriot Act, à la française, dit Hollande et Valls. Les services secrets auront la possibilité de surveiller tout le monde, n'importe quand et n'importe où, sans aucune retenue. Sinon, en France, en février, le chômage perdure et l'industrie a toujours beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. Écoutons ce qu'en dit l'émission 932 de Copernic. La France et la désindustrialisation, le 27 février 2015.
Pascal Pavageau, vous êtes au téléphone avec nous ?
Allô, oui, bonjour.
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 Quelle est un peu, vous, votre vision en tant que représentant de force ouvrière de la désindustrialisation ? Comment vous avez pu voir évoluer les choses depuis 20-30 ans ?
Le constat que vient de rappeler Henri Sterdyniak a été vécu par tout le monde, donc ça, il est effectivement clairement avéré. Je crois que les raisons qu'il vient de rappeler, qu'il vient d'exposer, sont aussi des éléments que nous connaissons et que on subit, y compris ensuite sur un plan, on va dire, politique et social, c'est-à-dire à la fois la question de la baisse effrénée du soi-disant coût du travail pour être compétitif, et puis toutes les conséquences que ça a en termes de mondialisation déréglementée, dérégulée, y compris sur le plan social, où on cherche toujours à faire travailler et produire au niveau industriel des gens qui gagnent le moins possible et travaillent le plus possible pour en arriver à des choses absolument abominables, type le Bangladesh sur les textiles, voire, on le sait, dans le monde, le travail des enfants en toute illégalité. Sur le diagnostic français, il y a un élément qui nous semble être important aussi sur les conséquences, ou du moins sur le laisser aller de la désindustrialisation, c'est que les pouvoirs publics, entre les années 70 et finalement le début, enfin milieu des années 90, voire début des années 2000, se sont totalement désintéressés de l'industrie. C'est-à-dire que, certes, ça a été des stratégies de compétitivité et de recherche du bas coût en matière de dumping social, quoi, finalement, et de dumping salarial, mais ça a été aussi, en France, à un moment donné, une sorte d'abandon de grands projets, de grandes stratégies de maintien industriel telles qu'on avait pu les voir entre 40, enfin, l'après-guerre jusque dans les années 70. À la limite, je dirais que l'un des exemples phares de ces politiques industrielles, ça a été par exemple les politiques énergétiques et politiques, par exemple, dans le domaine du nucléaire. Dans les années 70, on n'a plus ces grandes politiques publiques industrielles d'une part, et on a tout ça pour commencer à faire des recherches en économie, une suppression et une baisse de l'ingénierie publique, de la recherche publique et de l'innovation publique, qui fait que, y compris sur le plan industriel, nos grandes entreprises ne récupèrent plus ce que l'État ou la recherche publique en amont arrivait à faire pour leur permettre de rester, pour le coup, compétitifs à l'extérieur. Je pense par exemple à un exemple qui est assez connu dans le domaine routier. Si aujourd'hui on a notamment les entreprises qui sont finalement parmi les meilleures, si ce n'est les meilleures dans le domaine de la construction des routes, c'est notamment parce que les services publics, et le CETRA en particulier, des années 45 jusque dans les années 75, ont fait des recherches fondamentales pour aboutir à des structures, des enrobés, etc., qui permettent à nos entreprises ensuite d'être extrêmement fortes et compétitives grâce à la recherche publique en amont. Donc je pense que par rapport à ce que disait Henri en introduction, sur l'aspect franco-français, il y a eu aussi un abandon des politiques publiques et des pouvoirs publics pour avoir un vrai maintien, un vrai dynamisme des grands projets industriels.
Monsieur Sterdignac, c'est une analyse que vous partagez ?
Il faut bien voir, il y a des problèmes européens, il y a des problèmes français. Hein. La France avait une tradition qu'on peut appeler colbertiste, selon lequel, effectivement, l'État lançait des grands projets qui marchaient ou qui marchaient pas. Hein. On a eu
TGV,
on a eu Airbus, on a eu
le
Concorde, on a eu le nucléaire. Et donc, c'était dans la caractéristique française. Hein. Il y a des pays où ce qui joue un rôle important, c'est les banques, les marchés financiers. Dans d'autres, c'est le marché financier. Dans d'autres, c'est un tissu familial, en particulier en Allemagne. La particularité française, c'était le rôle important que jouait l'État qui soutenait massivement des grands groupes. Et ces grands groupes étaient censés avoir un rôle de pilote et d'organisation du tissu industriel autour de... Et puis avec les privatisations qui sont survenues après 80, tout le tissu français, industriel français, a été fragilisé. Les entreprises ont été privatisées dans des conditions pas toujours satisfaisantes. Donc ils n'ont pas pu se constituer en grands groupes capitalistiques. Et donc on a eu des entreprises françaises fragiles qui n'ont pas réussi à impulser l'industrie française, qui ont eu tant... Bon, une partie s'est vendue à l'étranger, a été plus ou moins dépecée, que ce soit Péchinet, Arcelor, etc. Et puis, une partie a choisi la facilité, c'est-à-dire d'aller produire massivement à l'étranger. C'est par exemple le cas de Renault. Et donc, tout ça, ça a fragilisé le système productif français où les grandes entreprises n'ont pas, enfin la France, les grandes entreprises n'ont pas trouvé de mode de croissance, de modèle français de développement industriel.
La question du dialogue social, entre guillemets, n'est pas spécifique à l'industrie. La question du dialogue social, elle se fait partout, dans l'administration, dans le secteur public, elle se fait dans les services, elle se fait dans l'industrie, etc. On a plutôt, d'ailleurs, de ce point de vue-là, dans les domaines industriels, des négociations collectives de branches qui fonctionnent plutôt bien et qui continuent à fonctionner plutôt très bien, d'ailleurs, y compris parce qu'elles elles sont généralement très anciennes, ces branches, depuis que cette industrie existe. Donc c'est pas dialogue social qui, à un moment donné, serait responsable de la...
Il n'y a jamais de cause unique, mais est-ce que la réussite de l'Allemagne ne s'explique pas aussi, il y a de nombreuses raisons à la réussite de l'Allemagne.
C'est vraiment un modèle. Non, c'est un modèle, effectivement, vous le rappelez, de discussion, de négociation et dialogue social qui est différent de celui de la France. Mais franchement, il y a aucun lien entre un secteur d'activité qui va croître ou une volonté à un moment donné de politique industrielle d'un côté et la question du dialogue social de l'autre. J'ajoute que, franchement, le dialogue social en France, globalement, reste plutôt pas mauvais. Il suffit de prendre le chiffre qui est qu'aujourd'hui, 93%, c'est le record mondial. On est numéro un mondiaux en termes de couverture de conventions collectives ou de statuts pour l'ensemble des travailleurs. C'est bien la preuve d'un certain dynamisme et d'une certaine avancée en continu en matière de dialogue social. Donc, ce n'est ni la nature du dialogue social, ni sa forme, ni ses acteurs qui sont comme ça responsables de la désindustrialisation française. Là, en l'occurrence, le problème est radicalement différent. Ça ne veut pas dire que dans une branche, bien évidemment, il ne faille pas améliorer un certain nombre de choses. Et là, de ce point de vue-là, ce qui a été mis en place, et notamment à la demande de Force ouvrière à l'époque en 2008, et ce qui a été mis en place depuis 2009 par les deux majorités qui viennent de se succéder à la tête de l'État, donc depuis 2009, à savoir les comités stratégiques de filières industrielles. On a 14 comités stratégiques de filières industrielles aujourd'hui qui existent, qui fonctionnent plutôt bien, qui sont en gros tripartites, hein, les pouvoirs publics, les organisations syndicales et les employeurs, qui ne sont pas des lieux de négociation, qui sont des lieux réellement de dialogue social, c'est-à-dire de concertation. Dans un comité de filière, plusieurs branches sont concernées et une branche peut être concernée par plusieurs comités de filière. Eh bien, ce dynamisme-là, de cette amélioration du dialogue social par la concertation, en plus de la négociation que nous avons dans les branches, est un élément plutôt très positif et très dynamique d'amélioration et de réindustrialisation avec ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les donneurs d'ordre qui seront les deux, trois grands donneurs d'ordre de la filière qui sont obligés de travailler avec plus de force avec les sous-traitants de rang 1, sous-traitants de rang 2, ce qui permet derrière ce dynamisme de concertation et de dialogue social aussi de sécuriser et de renforcer les emplois, y compris des sous-traitants de rang 1, de rang 2 et donc des TPE notamment qui sont en bout de chaîne. Donc vraiment, je pense que le dialogue social, non seulement n'a aucune responsabilité dans la désindustrialisation des 30 dernières années, mais au contraire, je pense que par le dialogue social et notamment les comités stratégiques de filière, on est en train de commencer à relever la tête au niveau français.
Mars. Un avis de recherche de la police nationale concerne un nourrisson de 6 mois, une petite fille, nous raconte le canard, qui a mis ses pattes dans le site du ministère de l'Intérieur. La note explique que cette personne, le bébé, est dangereuse et armée. Rions ensemble de notre police, la meilleure du monde après toutes les autres. Mars encore. Le chômage est toujours là. Écoutons ce qu'en dit l'émission 935 d'AC, comment ils ont inventé le chômage avec la troupe des Antrous et Richard Détire, un ancien fondateur d'un collectif de chômeurs. Voilà, alors on va commencer un petit peu, essayer un petit peu de comprendre comment, Richard, tu as conçu cette pièce et comment est venue l'idée d'écrire sur le chômage.
C'est une longue histoire, en fait, qui prend racine dans les mouvements des années 90, avec la peste, la C, le MNCP, etc. J'étais un des porte-parole de ce mouvement et j'ai présenté à plusieurs reprises une conférence qui s'intitulait « Comment ils ont inventé le chômage ?» C'est un parti pris, bien sûr, qui évoque qu'à l'orée des années 70, la société n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. En 68, il y avait le plein emploi et les libéraux ont décidé de reprendre la main, notamment en refroidissant l'économie. C'est le parti pris de cette pièce de montrer comment Milton Friedman et ses petits camarades s'y sont pris. Donc c'est du théâtre satirique, c'est du théâtre engagé, c'est du théâtre d'une troupe qui s'appelle les Anthros. Trop jeunes, trop vieux, trop diplômés, trop bas années, etc. Donc on considère avec cette pièce qu'il y a une sortie par le haut et que la fin de l'histoire n'est pas écrite. D'accord. Et que faire des chômeurs, des acteurs, au double sens du terme, acteurs qui montent sur les planches, mais acteurs aussi qui prennent à bras-le-corps ce sujet pour en faire une arme qui retourne contre ceux qui les divisent, les isolent, les humilient. Voilà, c'est un peu le projet de cette pièce, donc qui prend racine aussi dans les mouvements d'aujourd'hui, puisque j'ai la chance de participer au Forum social des saisonniers, qui est un rassemblement d'associations et de saisonniers qui se réunit tous les deux ans.
À quel endroit ?
Alors, ça s'est réuni à Aubagne, et cet hiver, ça s'est réuni à Chambéry.
D'accord.
Ça a été aussi le moment de créer des scénettes de théâtre, et donc de baigner à la fois dans l'explication, dans la révolte, dans la colère, mais aussi dans la mise en scène de ces situations, en s'inscrivant dans la lignée du théâtre forum, du théâtre politique.
D'accord, donc un peu un théâtre de rue, quelque part aussi.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on joue un peu partout. On en est à 71 représentations devant plus de 8000 spectateurs.
Oui, d'accord.
Et nous avons deux troupes de théâtre, une troupe de saisonniers et une troupe de chômeurs dont on parlera un peu, je crois.
Donc j'ai rencontré Muriel, la metteur en scène, qui nous a expliqué la démarche. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. C'était quelque chose à faire et pour moi, c'était un cri à pousser. C'était une bonne occasion. Surtout sur le chômage. Le chômage, je l'ai déjà vécu avant cette période-là, qui crée de l'isolement. Et cette fois-ci, je ne voulais pas être isolée en fin de compte.
D'accord. Il paraît pas. J'en suis même sûr, tout le monde a parlé avant.
Oui.
Excuse-moi. Tu es mère isolée avec trois enfants, c'est ça ?
Oui, j'ai trois filles.
Tu as trois filles, d'accord.
Voilà.
Et comment tu t'en sors financièrement aujourd'hui ?
Là, j'ai le nouveau RMI qui est
d'accord.
RSA.
Ok.
Donc. J'ai mon RSA avec mes allocations. Donc, et je suis actuellement en formation. Je suis en train de passer mes CACES pour être chariste.
C'est bien.
Oui. Voilà,
et donc, pour toi, cette expérience collective de théâtre, c'était un plus ? Ça t'a apporté énormément ?
Ça m'a apporté énormément. Ouais. Ça m'a apporté énormément, même dans le quotidien avec mes enfants. Ça m'a permis d'avancer énormément. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Comme vous avez vu, on est tous différents. Et Muriel a dit quelque chose qui était important, c'était le lien,
oui.
De créer un lien. Donc, entre nous, hein, maintenant, chômeurs, on a créé un lien fort qui fait que même il y a beaucoup plus de solidarité entre nous. Et voilà. Mais au quotidien, oui, ça m'a aidé beaucoup. En tant que maman, ça m'a aidé beaucoup. Et... à pouvoir parler, discuter, mettre des mots en tant que maman.
Des mots sur des souffrances.
Sur les souffrances. Et ça, c'est effectivement, ça m'a ouvert beaucoup de portes, je dirais.
Et t'as envie de poursuivre l'aventure.
J'ai envie de poursuivre l'aventure parce que bientôt, je vais être chariste, j'espère. Mais tout en gardant le lien avec les Anthros, parce que moi, j'ai envie de crier voilà, ce chômage, parce qu'il faut dire aussi que le chômage, ce n'est pas que les chômeurs qui le vivent, c'est aussi les travailleurs, parce que souvent, les travailleurs disent, ceux qui se réveillent le matin pour aller travailler, « Ah oui, les chômeurs, ils ont les droits, ils ont ci, ils ont ça. » Même moi, la première, quand je travaillais, moi, je le voyais comme ça. Aujourd'hui, non, je ne le vois pas comme ça. Le chômeur, oui, il a peut-être des droits que... l'État a mis en place pour les aider à continuer à trouver du boulot, mais l'État fait quelque chose qui est aussi dur qu'est derrière, c'est l'isolement.
Chef, vous savez bien qu'il n'y a plus assez d'oseille. Il y a du travail partout, ça devrait payer, non?
C'est vrai, ça. La production, c'est bien beau, mais ça rapporte pas assez.
Sans compter que les impôts nous tombent dessus.
La production, ça est payé, mais ça ne paye plus.
Et quand tu te casses le cul à faire le patron, tu gagnes, allez quoi, 10, 15, 20 fois ce que gagne ton ouvrier?
Ils ont plein emploi. Les allocations familiales, la sécurité sociale, le salaire minimum garanti, le mois entier de congés payés à rien foutre, les aides de ci, les aides de ça, et quand tu leur dis quelque chose, ils te défient.
C'est vrai qu'ils ont tous les droits, le droit du travail, le droit de faire grève.
Quand je pense que les syndicats nous provoquent de plus en plus, que les ouvriers nous quittent pour un oui ou pour un non.
Il faut leur mettre la pression avant qu'ils nous mettent la pâtée.
Ce qu'il faut, c'est une bonne pression sur la tempe. Comme au bon vieux temps. Et ils vont comprendre qui sont les boss.
Silence, ne vous inquiétez pas. On va trouver une solution. Je vais donner la parole à notre invité d'honneur. Il nous vient d'Amérique, directement de Chicago. C'est un cousin. Il a créé une école internationale d'économistes. Cher Milton Friedman, vous avez la parole.
J'aimerais que ça cesse. S dégradé, D sans un bénéf, F, ce qui me blesse. S, c'est d'être soldé, D pour pas baiser. F, S, D, F, j'ai pas d'adresse. S, rien à garder. D, j'ai pas de TF. F. S, D, F, rien dans la caisse. S, rien à fonder. D, j'ai pas de sous-chef. F. S, D, F, on me rabaisse. S, on veut me céder. D, en bas-relief. F. S, D, F, la politesse. S, rien à glander. D, je dis ça en bref. F. S, D, F.
Avril. Le MEDEF demande plus de flexibilité au marché du travail. Sur les millions de contrats CDD signés chaque année, un tiers d'entre eux durent moins d'un mois. Le MEDEF espère en embaucher que des bénévoles, sans doute. Travailler pour rien, voilà l'avenir, et 100% de bénéfices pour les patrons. En avril encore, notre cher ministre du Budget, le plus droitier de nos ministres, continue de s'attaquer au prud'homme, car il est quand même insensé que des salariés puissent se défendre quand ils sont spoliés, humiliés, licenciés. Écoutons l'émission 943 de l'équipe Secret de Fabrication sur la loi Macron et autres régressions sociales du 10 avril 2015, avec Lara, conseillère prud'homale, Étienne, défenseur syndical, et Julien, inspecteur du travail.
Alors, donc ce soir, la loi Macron, donc Macron, banquier de son État, également, comme par hasard, ministre de l'économie, a décidé de nous pondre une loi qui prétend libérer les énergies. Et ça, généralement, dans la novlangue néolibérale, ça veut dire surtout casser les droits des salariés. Alors, nous allons voir un peu comment cette loi précisément prétend opérer. Mais auparavant, nous allons commencer par faire un petit rappel d'un certain nombre d'antécédents. Et effectivement, la loi Macron n'est pas un ovni tombé du ciel. Elle s'inscrit dans toute une série de réformes, surtout de contre-réformes, qui visent à affaiblir la défense salariale. Donc je vais commencer par me tourner vers Julien. La loi Macron contient un volet sur les nouveaux pouvoirs de l'inspection du travail, mais ce n'est pas d'hier que les gouvernements successifs cherchent à s'attaquer à l'inspection du travail. Notamment, un des derniers événements avant cette loi, ça a été ce qu'on a appelé le plan Sapin. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des éléments essentiels de ce fameux plan Sapin ?
Oui, alors, bon, pour revenir un peu sur la chronologie des attaques gouvernementales, hein, pour resituer un peu le débat, c'est vrai qu'il y a eu, depuis l'élection de Hollande, hein, toute une litanie de réformes qui cherchent à s'attaquer à la fois au contenu du droit du travail, hein, en cherchant à affaiblir les protections dont bénéficient les travailleurs dans les entreprises, mais également à s'attaquer aux protections juridiques dont ils bénéficient. Donc c'est tout l'objet de la discussion ce soir, puisque la loi Macron attaque les conseils des prud'hommes, mais également l'inspection du travail. Et puis, le dernier épisode en date, c'est la prochaine loi Rebsamen, là, qui va rentrer en discussion au, au Parlement à la fin du mois de mai, qui, elle, s'attaque cette fois de façon frontale aux possibilités qu'ont les salariés de se défendre dans les entreprises et à s'exprimer collectivement, puisque ce sont toutes les institutions représentatives du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, dont le périmètre et les attributions vont être entièrement refondues. Donc pour la chronologie, hein, on a eu la loi de sécurisation de l'emploi en juin 2013, qui a introduit notamment les fameux accords compétitivité-emploi, baisse de salaire contre promesse de non-suppression d'emplois, évidemment très théorique, la réforme des plans sociaux, également avec l'homologation des plans sociaux par l'administration. On a eu ensuite en février 2014, pardon, la loi sur la formation professionnelle, qui allège les obligations de financement de la formation professionnelle pour les employeurs. On a eu en 2014 la réforme de l'inspection du travail, donc là plus précisément. Elle se traduit par... Alors, je n'ai pas rentré dans le détail de la réforme organisationnelle, hein, parce que ce qui est important, c'est surtout ce qui va se passer pour les usagers. Et ce qui se passe pour les usagers, bah, concrètement, c'est sur l'ensemble du territoire la suppression de 10% des effectifs de contrôle. Donc aujourd'hui, on a, alors d'après les chiffres de la CGT, hein, qui ne sont pas confirmés par le ministère, mais il y a tout un tour de passe-passe dans lequel je ne vais pas rentrer, mais nous, on estime que 10% des effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail habilités à entrer dans les entreprises pour les contrôler ont été supprimés. L'autre aspect de la réglementation, c'est que désormais, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont un chef qu'on appelle le responsable d'unité de contrôle, qui a pour mission de piloter leur action et faire appliquer une politique définie par le ministère du Travail, et donc de faire en sorte que les inspecteurs et contrôleurs du travail agissent en priorité selon les priorités définies par le ministère du Travail.
Et donc, tu as pu voir, Étienne, un certain nombre d'évolutions préalables à cette loi qui ont déjà un peu, on pourrait dire, amolli le droit prud'homal ?
Oui, mais c'est un long processus, j'ai envie de dire depuis 2008, mais qui a eu son point d'orgue en 2013, quand le gouvernement, pour faire plaisir au patron, a réduit ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est-à-dire le temps pendant lequel on peut aller réclamer des salaires, des primes, des droits auxquels dont on a été privé, de 5 ans à 3 ans.
Alors, juste un petit point de détail, ça avait été porté à 5 ans par qui ? Par le gouvernement Sarkozy, il me semble.
C'était 5 ans, c'est quand même une... C'était déjà...
C'était pas l'alignement du délai de prescription sur le délai civil ?
Oui, mais c'était déjà une réduction.
Hein. D'accord. Allez, c'était déjà
De mémoire, c'était déjà une réduction.
D'accord.
Et donc, on avait effectivement aligné la prescription prud'homale sur les prescriptions civiles, sachant que c'est 5 ans sauf exception, et que sur le plan pénal, c'est 30 ans sauf exception, qui sont précisés dans la loi. Ça a une incidence, c'est qu'il ne faut pas oublier de se manifester quand on constate des droits auxquels on a été, dont on a été spolié. Et il faut que chacun d'entre nous, que les salariés, soient très attentifs à cette problématique, car de plus en plus de salariés viennent nous voir au dernier moment en disant ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que j'ai pas ma prime de fin d'année, que j'ai pas et dont je bénéficiais avant. Et là, on est de plus en plus coincé. Alors bon, il y a des tours de passe-passe qui faillent pour l'instant réussir plus ou moins à contourner parce qu'on est dans une période transitoire. Mais la période transitoire, elle ne sera pas éternelle. Et je crois qu'il faut vraiment dire aux salariés, hein, la meilleure résistance à cette logique, c'est de tout de suite se tourner vers les organisations syndicales pour faire valoir ses droits et introduire des instances prud'homales quand c'est nécessaire.
Bien déjà, en fait, dans la gestion des conseillers prud'hommes, il est indiqué qu'il y aurait un recours supérieur à ce qui est actuellement un juge départiteur. Bon, en soi, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient. Simplement, l'argument qui est pris, c'est d'améliorer la qualité de la justice. En matière prud'homale, il y a ce que l'on appelle le bureau de conciliation, qui est une étape importante et qui doit permettre aux parties de se parler, de se rencontrer et de voir s'il y a des points qui ont été qui peuvent être sujets à une transaction possible. Il faut savoir qu'à Paris, un bureau de conciliation se tient en matinée, donc à partir de 9h. Et nous avons deux étapes, de 9h à 10h30 d'une part et d'autre part de 10h30 à plus. Et nous traitons 14 affaires.
D'accord.
En 14 affaires, nous ne pouvons pas faire une conciliation de qualité. La loi Macron ne résout pas cette question-là. Et pourtant, cette notion de conciliation est importante. Donc ça, pour moi, ça me paraît un axe majeur. Ce qui m'étonne particulièrement, c'est le champ restrictif de cette loi. Si l'on prend l'exemple de la notion de licenciement et du point du reclassement. Et on passe par cette loi à l'évitement du reclassement du salarié, alors que le reclassement est une possibilité de maintien de la personne dans l'entreprise. Donc là, il y a une revue de périmètre, hein, puisqu'on pouvait regarder le reclassement quand il s'agit d'un groupe, par exemple, le reclassement dans un établissement et voire beaucoup plus large, dans un autre établissement, voire dans le groupe. Et cette possibilité ne sera pas proposée si le projet devient loi. Et là encore, on peut s'interroger sur la notion d'efficacité de ce projet.
Donc il y a quand même la possibilité de défendre ses droits, quand bien même on essaie de nous les rogner. Le droit de grève, il est là pour rester, et on compte bien s'en servir, tous autant qu'on est, pour faire face à des hurluberlus comme Macron, Rebsamen, Hollande, et j'en passe. Voilà. Alors c'était Secret de fabrication, donc le format de mode d'emploi concernant la vie dans les entreprises et les résistances.
Fréquentez-vous souvent le milieu aquatique profond standardisé ? C'est là le jargon pédagogique des spécialistes de l'éducation. Ils désignaient ici une piscine. On les a perdus, ces pauvres bougres, dans cette nouvelle loi sur l'école. En juin, c'était mon anniversaire, un événement aussi important que ce qu'on entend à longueur de journée sur les JT. Un an de plus ne nous rajeunit pas. Drôle, non ? Enfin, plus drôle que les affaires tories de la famille Le Pen. Juillet et août. Rien de très excitant en juillet, en dehors des filles en petite tenue. En août, par contre, nos galonnés sautent sur le Larzac pour y loger leurs hommes. 1000 hommes de la Légion vont donc devenir les voisins des moutons et autres bovins. Ils seront en famille. Souvenez-vous, dans les années 70, les militaires voulaient multiplier par 7 leur terrain. Mitterrand avait dit non en 1981. Aujourd'hui, ils reviennent. Si tu vires un militaire par la porte, il reviendra par la fenêtre.
Septembre. Les migrants arrivent par milliers. Vite, un mur avec des barbelés, aurait souhaité le Front National. L'Allemagne accueille 800 000 réfugiés, la France 33 000. Écoutons ce qu'en dit l'émission 950 du groupe Attaque le Piaf, le 11 septembre 2015.
Le lieu où tout ce monde se retrouve, c'est la Méditerranée. Et tu étais en Méditerranée cet été, plus exactement sur une île grecque.
J'étais en Grèce, tout à fait. J'ai bougé un peu en Grèce. Je n'étais pas sur les îles, disons, d'arrivée, de première arrivée. J'ai passé du temps à Athènes. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui s'est passé à Athènes et suivre un peu le passage de ces personnes vers le nord. Parce que assez rapidement, la voie s'est ouverte, comment vous dire. Les personnes qui sont arrivées dans les îles d'Écosse... et Mytilène, genre sur la côte en face des Turquies, ont été assez rapidement, grâce à l'utilisation des bateaux, des ferries utilisés par les touristes. Donc il y a eu une petite révolte des compagnies qui ont dit non, on ne se prête pas, on ne veut pas se prêter à ça, on a d'autres choses à faire pendant l'été. Voilà. Mais finalement, l'État est arrivé à les faire transiter par le Pirée. Ils ont installé quelques petits centres, camps, campements, on peut les appeler comme on veut, pour les héberger dans le Pirée et dans les alentours de Athènes. Mais aussi rapidement, ils ont commencé à les transporter vers la frontière de Skopje. Donc dans la Macédoine, en Grèce, il ne faut pas dire Macédoine, parce que la Macédoine, c'est autre chose, donc Skopje. Et du coup, ils ont mis face à la possibilité de transiter dans un autre pays, en sachant qu'ils ne s'arrêteraient pas en Macédoine et qu'ils continueraient leur voyage. Donc ça a été assez intéressant de voir comment cette crise liée à la guerre en Syrie, donc à cette émergence, moi je pense à l'émergence parce qu'il y a un an et demi, la France était censée accueillir 500 réfugiés syriens, et là, il se trouve qu'elle parle de 24 000. C'est-à-dire, les chiffres ont monté de façon exponentielle. Et il y a cette crise concerne des droits humains, l'éthique de l'hospitalité, etc. Mais cette crise se croise avec la crise en Grèce. Et notamment les déséquilibres au niveau de pouvoir qui tombe aussi sur la question de la gestion de la migration. Raison pour laquelle les Grecs, ils ont un peu arrêté de ficher les migrants et les ont tout simplement invités à poursuivre leur voyage en sachant que la destination n'était pas leur pays. Ils leur ont dit, bon, allez-y. Et ça a un peu déparié les cartes. Ils ont un peu changer la dynamique, ils ont accéléré, si vous voulez, l'urgence, à part pour ce qui est l'Union européenne, de gérer cette question de façon organique, de façon collective. Quoi.
Et donc, t'as vu la réalité tout cet été en Grèce, donc avec à la fois peut-être la crise locale aussi économique qui a frappé des gens et qui voyait arriver des gens encore plus pauvres qu'eux.
On en a parlé beaucoup avec des amis, avec des gens qui travaillent plus ou moins dans le domaine, mais aussi avec des citoyens, des personnes, etc. On a échangé, j'ai essayé d'échanger pour ce que j'ai pu avec des migrants, donc des Syriens, mais d'autres migrants. Ce qui est intéressant, c'est que face à une position un peu froide de l'État, qui est quand même pris dans d'autres problèmes, donc il a du mal à gérer, nonobstant sa volonté exprimée de les aider. Vous avez la gestion policière, et donc il y a pas mal de cas, il y a des vidéos sur YouTube où la police de frontières grecques essaye de renverser des bateaux des migrants, donc il y a des cas assez abominable, si vous voulez, de réaction policière qui est imputable. Bon, normalement, les Grecs me disaient que c'est par rapport à la gestion locale, donc des îles, donc des commissariats, si vous voulez, qui gèrent l'accueil sur place. D'un autre côté, vous avez une population qui, et ça c'est une question, la question qu'on a débattue, comprend et que essaye de d'aider pour ce qu'il peut. Moi, j'ai trouvé dans les rues d'Athènes Welcome Refugees à plusieurs reprises. Je sais qu'il y a des boulangers qui vont donner du pain. La première chose qu'ils font le matin, c'est ils vont leur donner du pain. C'est-à-dire qu'il y a une empathie,
un
partage et une volonté de les aider, sachant que c'est pas des personnes qui vont rester. Probablement, c'est ça aussi qui permet, qui ouvre cette question. Il y a une question sur l'hospitalité à personnes qui à des personnes qui ne sont pas censées s'installer dans le pays. Donc la logique de l'hospitalité n'est pas exactement la logique de la migration classique économique, comme on dit. Mais ça a permis ça a montré comment les gens effectivement sont sensibles à cette question et s'ils peuvent, ils interviennent. C'est une chose qu'on a retrouvée en Grèce, que j'ai retrouvée en Grèce, mais qu'on peut retrouver aussi ailleurs. L'exemple, c'est les 10 000 Islandais qui ont surpris un peu tout le monde en disant bon, l'Islande fait 300 000 personnes à peu près. Alors, je ne sais pas quel Syrien voudra aller en Islande, mais effectivement, ils ont dit ben, nous, on est prêts à héberger des familles. Chacun de ces 10 000 est prêt à héberger des familles. des Syriens. Donc ça déparie un peu les cartes. Ça montre comment il y a un discours politique, étatique, de contrôle, de gestion. Et à côté, il y a un discours d'hospitalité, de volonté de aider. Quoi.
D'ailleurs, pour ceux qui se posent cette question, n'hésitez pas à rechercher sur Internet. Il existe autour du Secours populaire, du Secours catholique, mais aussi d'autres associations qui vous proposent de vous mettre en contact vous-même pour l'hébergement de personnes réfugiées en France. Ces sites fonctionnent parfois avec assez d'humour en mettant une sorte d'interface qui rappelle les R&B ou Couchsurfing. Accueillez des réfugiés chez vous, vous verrez, c'est sympa. Et en tout cas, ça permet d'avoir vraiment cet esprit de partage que les Islandais ou quelques Grecs qu'on vient de citer ont réussi à amener naturellement.
Ibrahima a cette rage qui se lit sur le visage. Il n'a que 17 ans d'âge et pourtant, de son beau village. Il n'a que l'image d'une cage. Besoin d'être à la page, d'entreprendre le voyage. Et s'il le faut à la nage pour aborder l'autre rivage. Pour aborder l'autre rivage. Blanche est ta page, l'Occident est ta mirage, lui prédit le mage. Je te vois enfermé dans une cage, mauvais présage. Et pour ce long voyage, il ne prit pour bagage qu'une gypsière en bandoulière et un banjo plaqué au dos. Ibrahima est de la lignée des griots, celle qui polie les mots, pépite charriée par les flots, d'abord torrent, puis ruisseau, et enfin filet d'eau. L'écrin du joyau, l'épopée du Karamoko Alpha, le premier prince du Fouta, le guerrier au service du lettré, testament toujours d'actualité, puissent les dirigeants s'en inspirer. Il traversa la frontière, et atterrit au détroit de Gibraltar. L'Andalousie, et le voilà à Paris. La galère des sans-papiers, les rafles dans les foyers, en permanence aux aguets, oubliant qui il est. C'est dans les centres de rétention que tout lui revient, le Karamoko Alpha, le Fouta, sa promise Binta, la prédiction du mage, Et la fin du voyage. Ibrahima n'a plus cette rage qui se lit sur le visage. Il n'a que 20 ans d'âge et pourtant, il a noirci tant de pages. Oh, toi qui as le projet de fuir ton pays, va en Guinée à la baie sur la place de la mosquée. Demande Ibrahima le griot, celui qui polie les mots, pépite charriée par les flots. D'abord torrent, puis ruisseau, et enfin, filet d'eau, l'écrin du joyau, l'épopée d'un jeune gamin africain qui voulait forcer le destin. Ses galères, ses traversées du continent, ses galères et déboires en Occident, paradoxe d'une civilisation, abondance et exclusion, en fusion. Merci.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Autour des échafauds, mourons pour des idées. D'accord, mais de mort lente.
Octobre. Ce qui fut tragique en octobre, c'est le plan de licenciement à Air France avec un comité central d'entreprise interrompu par les syndicalistes qui prennent à partie les DRH et leur arrachent la chemise. Toutes les télés, radios, journaux s'indignent devant cette violence qu'ils considèrent indigne et extrême. Les images des deux DRH bousculés et torse nus traversent la planète. Mettre les gens à la rue, licencier 2900 personnes, ce n'est pas violent peut-être. À croire que les patrons ainsi qu'une certaine presse qui cire leurs pompes sont déconnectés de la réalité. Octobre. Les parents de Rémi Fraisse, un an après sa mort, voulaient se réunir sur le barrage de Sivens, où leur fils avait trouvé la mort. Le président PS du conseiller départemental avait trouvé à l'époque relativement stupide de mourir pour ses idées. Il est vrai que ce monsieur ne risque pas de mourir pour ses idées, il en est dénoué. Les parents ont pu se rendre finalement sur le site avec 400 personnes, bien encadrées. La violence politique est là. Ils sont bien urbains d'accepter. C'est ça le pouvoir, dire non et dire oui. Novembre. Les attentats à Paris ont marqué les esprits. 130 morts et 350 blessés, au Bataclan et dans les restaurants aux alentours. Si nous pouvons comprendre, sans automatiquement excuser, le terrorisme politique, résistant contre nazis, démocrate contre franquisme, etc., etc., nous condamnons fermement l'attentat aveugle et gratuit. En novembre, c'est la mise en place de l'état d'urgence avec son lot d'excès. Les flics peuvent garder leurs armes en dehors de leurs heures de service. Ils peuvent, sur simple dénonciation ou délit de faciès, tout ce qui porte une barbe est dangereux, entrer chez les gens sans passer par le juge, écouter, enregistrer. Et donc tous les débordements sont permis. Les flics défoncent les portes, blessent des enfants, choquent, mettent les gens en garde à vue en résidence surveillée, en se trompant souvent l'adresse. Ils ne s'excuseront pas. Arrivés à 20 dans un logement, avec cagoule et pistolet mitrailleur, en défonçant la porte à coups de pied, c'est normal, c'est naturel pour eux. C'est la guerre. Ce sont des dommages collatéraux. Et point de réparation. Décembre. L'objectif annoncé de la plus grande conférence climatique de tous les temps, qui s'est déroulée au Bourget en décembre 2015, était d'aboutir à des accords contraignants sur le dégagement de gaz à effet de serre et les pollutions atmosphériques, l'occasion de concevoir de nouveaux quotas de pollution que les moins pollueurs revendent aux plus pollueurs, de développer l'industrie verte. D'ordinaire, les États soutiennent les industries les plus polluantes, les destructions les plus variées de la planète, mais ils allaient, paraît-il, apporter des solutions alternatives. En face de la COP21 officielle, une masse hétéroclite d'associations et d'organisations politiques participait au grand raout médiatico-politique de la fin d'année. Il s'agissait de faire pression sur les décideurs et de réveiller les consciences. Le tout par le biais de débats, conférences, blocages, manifestations, villages alternatifs et actions de désobéissance civile dans une ambiance festive et non violente. Pour la deuxième semaine des négociations de la Conférence mondiale sur le climat, la société civile a continué à se mobiliser à Montreuil et au 104, établissement culturel situé à la frontière du 18e et 19e où la coalition Climat 21 avait installé son QG. Chaque soir, des assemblées générales revenaient sur les thèmes majeurs des négociations qui s'étaient déroulées au Bourget dans la journée. Une bonne quinzaine d'animateurs des émissions politiques et sociales de fréquence Paris Pluriel ont participé aux tables rondes, pris du son, interviewés, dans le cadre de la semaine anti-sommet COP21 sur FPP. J'aimerais ici remercier tous ces animateurs, animatrices motivés qui ont fait un boulot monstre et de qualité, et une petite dédicace particulière pour les salariés qui nous ont beaucoup aidés, et aussi à Mathilde, du haut de ses 26 ans, qui a su coordonner, mettre en relation.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission Humeur de début d'année. D'ailleurs, je souhaite aux feignants, aux crasseux, aux drogués, aux alcooliques une très bonne année. Aux femmes, aux parasites, aux jeunes, aux vieux, aux artistes, aux tolards, aux apprentis, aux noirs, aux piétons, aux arabes, aux français une très bonne année. Je souhaite aux chevelus, aux fous, aux travestis, aux anciens communistes, aux abstentionnistes, convaincus, aux anarchistes, aux gauchistes de tout poil, une très bonne année. Je souhaite aussi à toutes les auditrices, quel que soit leur âge, leur nationalité, aux auditeurs également, aux animateurs et animatrices de fréquence Paris Pluriel, une très bonne année. Cette émission se termine. Très très gros bisous par milliers aux filles et grosses poignées de main aux garçons. Restez insoumis, vigilants et surtout ne lâchez rien. Salut.